Le chevalier à la charrette, chapitre 14. Ce soir-là, Lancelot se mit au lit plus tôt que de coutume, disant qu'il était souffrant, et les heures lui parurent longues comme des années. Vous tous qui en avez fait autant, vous pouvez bien comprendre cela. Enfin, quand il vit que dans la maison il n'y avait plus une chandelle, une lampe, ni une lanterne qui ne fût éteinte, il se leva, et franchit le mur du verger qui était vieil et décrépit. Au ciel, ni lune ni étoile. Il ne s'en chagrina point. La reine l'attendait à la fenêtre. Elle n'avait point de cotte ni de bliot, mais seulement un manteau d'écarlate sur sa blanche chemise. Et tous deux, allongeant le bras de leur mieux, se prirent par la main. « Dame, si je pouvais entrer !» « Entrez, beaux doux amis, mais ne savez-vous pas que le sénéchal couche ici même? Et ne voyez-vous pas que ces barreaux sont roides et forts? Jamais vous ne pourriez les écarter. » « Dame, rien, hors vous, ne me saurait retenir. » Et déjà Lancelot, que jamais nul fer n'arrêta, tirait sur les barreaux tranchants si rudement qu'il les déchaussa. Pourtant, ce ne fut pas sans se blesser au doigt. « Eh bien, dit la reine, attendez que je sois couchée et ne faites aucun bruit à cause de queue. » Il n'y avait ni chandelle ni cierge, pour ce que le sénéchal se plaignait de la clarté, disant qu'elle l'empêchait de dormir. Lancelot traversa la chambre tout doucement, entra dans la pièce voisine, et, quand il fut devant le lit de la reine, il la salua profondément. Elle lui rendit son salut, puis elle lui tendit les bras et l'attira auprès d'elle. Il avait les mains humides de sang, et certes, elle le sentit bien, mais elle crut que c'était la sueur causée par la verdeur de son âge. Et grande fut la joie qu'ils s'entrefirent, car ils avaient beaucoup souffert l'un par l'autre. Quand ils s'embrassèrent, il leur en vint un tel plaisir que jamais le pareil ne fut éprouvé par personne. Mais on ne saurait dire en un conte quel déduit Lancelot eut toute cette nuit. Aussi, lorsque le jour parut et qu'il lui fallut quitter celle qu'il aimait autant qu'un cœur mortel peut aimer, ce fut un grand martyre pour lui. Son corps partait, son âme demeura. Il s'agenouilla devant sa dame pour prendre congé, tandis qu'elle le recommandait à Dieu tendrement. Puis il s'en fut, après avoir remis soigneusement les barreaux en place, et la reine s'endormit en pensant à lui. Chapitre 15. Le lit taché de sang, le second combat de Lancelot et Méléagant. Au matin, elle sommeillait encore dans sa chambre en courtinée, lorsque Méléagant vint lui rendre visite, comme il avait coutume. D'abord qu'il entra, il aperçut les traces de sang frais sur les draps. Il alla au lit de queue dans la pièce voisine et le vit pareillement taché, car les blessures du sénéchal s'étaient rouvertes durant la nuit. « Dame, voici du nouveau » s'écria-t-il. « Mon père vous a très bien gardé de moi, mais très mal de queue le sénéchal, et c'est grande déloyauté à vous que d'avoir honni l'un des plus prud'hommes du monde pour en choisir le plus mauvais. » À ces mots, queue, pour souffrant qu'il fût, ne put se tenir de crier qu'il était prêt à se défendre d'une telle injure, ou par épreuve ou par bataille. Mais Méléagant, sans lui répondre, envoya quérir son père. Et lorsque le roi Baudemagu eut vu les draps sanglants, « Dame, dit-il, vous avez mal agi. »«
Sire, répondit la reine, je ne mets pas mon corps au marché. Bien souvent la nuit le nez me saigne. » Que Dieu ne me pardonne jamais si c'est queue qui porta ce sang dans mon lit. Voyez, fit-elle à Lancelot qui était venu avec le roi, pour quelle femme on me tient et de quoi l'on m'accuse.
Dame, dit celui-ci, il n'y a au monde chevalier contre qui je ne vous en défende.
Si vous l'osez nier, je suis tout prêt à le prouver contre vous, s'écria Méléagant.
Comment? « Êtes-vous donc déjà guéri des plaies que je vous fis hier ?»«
Je n'ai pas plaies, dit Méléagant, qui puisse m'empêcher de soutenir le droit. »« Dieu m'aide, dit Lancelot, puisqu'il vous en faut encore. Allez vous faire armer. Bientôt, les deux chevaliers se trouvèrent sur la place, et le roi avec eux.
Sire, dit Lancelot, une bataille pour une si haute chose ne saurait être faite sans serment.
Le roi fit apporter les meilleures reliques qu'on put trouver, et tous deux se mirent à genoux.
Par Dieu et par tous les saints, dit Méléagan, c'est le sang de queue le sénéchal que je vis au lit de la reine.
Par Dieu et par tous les saints, dit Lancelot, vous en êtes parjure.
Alors ils enfourchèrent leurs destriers et laissèrent court. Leurs lances se brisèrent et ils se heurtèrent de leurs chevaux, de leurs écus, de leurs corps, si rudement qu'ils touchèrent de l'échine l'arçon d'arrière. Mais Méléagan vola par-dessus la croupe de son destrier. Aussitôt Lancelot saute à terre, dégaine, jette l'écu sur sa tête et court à celui qu'il hait à mort. Méléagan se défend bon chevalier, car il était preux, s'il était traître et félon. Mais sa blessure s'était remise à saigner, et Lancelot le pressait plus vivement qu'il n'avait fait la première fois. Quand le roi vit qu'à nouveau la bataille tournait mal pour son fils, il ne put le souffrir. Il fut encore implorer la reine au nom de Dieu et des services qu'il lui avait rendus.
« Sire, dit-elle, allez les départir. »
Et le roi s'empressa à demander à Lancelot que la reine voulait qu'il laissât maintenant la bataille.
« Dame, le voulez-vous ? » cria Lancelot.
« Oui, fit-elle.
« Et vous ? » demanda Lancelot à Méléagan.
« Oui, car je vous retrouverai quand il me plaira. »
Lancelot mit à regret son épée au fourreau, disant à son adversaire qu'il sut bien que c'était par force. Puis il passa la journée avec sa dame, et le lendemain il repartit, comme il devait, vers le pont sous l'eau, en quête de Monseigneur Gauvin, accompagné de 40 chevaliers.
Chapitre 16. Les fausses lettres.
Or, quelques jours plus tard, Messire Gauvin lui-même arrivait à la cour du roi Baudemagu, ramenant les gens de Lancelot. Quand la reine vit son neveu, sa joie fut bien grande, mais plus grand encore son deuil quand elle apprit que son ami était perdu. Gauvin conta comment il avait franchi le pont sous l'eau en grand péril de se noyer vilainement, et comment, pour ce que le cœur lui tournait de l'eau qu'il avait bu, il avait défait à grand-peine le chevalier qui gardait le passage. Puis comment il avait rencontré les compagnons de Lancelot, qui les avaient quittés la veille, conduits par un nain, en leur commandant de l'attendre, et comment il avait cherché vainement avec eux. La reine s'efforçait de faire bon visage, mais le plus folle eût pu voir qu'à peine avait-elle le cœur de l'écouter. Quant au roi, qui était très preux, il promit de se mettre lui-même en quête de Lancelot, et dès le lendemain, Messire Gauvin et que le sénéchal dirent qu'ils l'accompagneraient. Mais, après le manger, un valet entra dans la salle, et il remit une lettre à la reine, qui pria le roi de la faire lire par un de ses clercs. Et la lettre était du roi Artus, qui la saluait et lui mandait qu'elle revînt avec Monseigneur Gauvin et toute sa compagnie, et qu'elle n'attendît pas Lancelot, car il était arrivé sain et sauf à Camaalot. Grande fut la joie de tout le monde en entendant ces nouvelles, et le visage de la reine, de très pâle qu'il était, devint couleur de rose. Dès l'aube, elle se mit en route avec ceux du royaume de l'Ogre que Lancelot avait délivré en même temps qu'elle. Le roi Baudemagu les escorta jusqu'aux limites de sa terre, et là, il les recommanda à Dieu, tandis que Messire Gauvin et que le sénéchal lui promettaient de le servir comme leur seigneur, et que la reine lui jetait ses deux bras au cou. Lorsque le roi Artus apprit qu'elle approchait de Camaalot, il vint au-devant d'elle avec toute sa maison. Et d'abord il lui donna un baiser, puis courut à Monseigneur Gauvin et à que le sénéchal, et demanda des nouvelles de Lancelot.
« Sire, vous en avez de meilleurs que nous. »«
Par ma foi, je ne l'ai pas vu depuis le jour qu'il oxy Caradoc le Grand, seigneur de la tour douloureuse. »
La reine comprit qu'elle avait été trompée par de fausses lettres. Elle frémit de tout son corps. Son cœur devint lourd comme une pierre et elle se pâma entre les bras de Monseigneur Gauvin qui se hâta de la soutenir. Puis elle se mit à pleurer, sans prendre souci de cacher sa peine, disant qu'elle ne connaîtrait plus jamais la joie, puisque le meilleur chevalier du monde était mort à son service. Le roi Artus résolut de demeurer quelque temps à Camaaloth, parce que cette cité était proche du royaume de Gore, où Lancelot était resté, selon toute apparence. La reine aimait cette ville, où jadis son ami avait été armé chevalier.
Chapitre 17. Le chevalier charreté, Bors l'exilé.
De la Pentecôte jusqu'à la mi-août, elle pleura jour et nuit, jusqu'à en perdre sa beauté, et sans cesse elle implorait le secours de la Dame du Lac. Enfin, le jour de l'Assomption, il fallut bien que le roi tînt sa cour et porta couronne, comme il avait accoutumé aux grandes fêtes. Ce jour-là, comme le soleil venait de se lever beau, clair, luisant, et que le monde entier en était déjà éclairé, le roi Artus se mit à la fenêtre pour écouter le chant des oiseaux qui avait déjà commencé la matinée. Or, en regardant la campagne, il vit une charrette attelée d'un cheval dont on avait coupé la queue et les oreilles, conduite par un nain à grande barbe et à grosse tête, et où était un chevalier en chemise sale et déchirée, qui avait les mains liées derrière le dos et les pieds enchaînés au brancard. Son écu sans armoirie était suspendu sur le devant, son haubert et son haume derrière, et son cheval blanc comme la neige, tout bridé et sellé, était attaché à la voiture. La charrette entra dans la cour, et le chevalier s'écria « Ah, Dieu, qui me délivrera ?» Par deux fois, le roi Artus demanda au nain quel forfait ce chevalier avait commis. Par deux fois, le nain lui répondit « Le même que les autres. » Alors le roi demanda au chevalier charreté comment il pourrait être délivré. « Par celui qui montera où je suis. »
« Vous ne trouverez pas cela aujourd'hui, beau sire. »
« Tant mieux, » fit le nain. Et la charrette continua son chemin par les rues de la ville, où chacun hua le chevalier à qui mieux et lui jeta de vieilles savates et de la boue. Cependant, le roi s'était mis à son haut manger. Messire Gauvin descendit des chambres de la reine, on lui apprit ce qui venait de se passer, et cela lui rappela l'aventure de Lancelot. « Maudits soient les charrettes et celui qui les inventa » s'écria-t-il. Comme il prononçait ces mots, la voiture entra dans la cour, et le charreté en descendit et vint demander place à table. Mais nul ne voulut de lui pour voisin. On lui dit qu'il ne lui convenait pas de s'asseoir avec des chevaliers, ni même avec des écuyers, et il lui fallut s'accroupir sur le seuil de la porte pour manger. Toutefois, messire Gauvin vint à lui et déclara qu'il lui ferait compagnie, puisque, tout charreté qu'il fût, il n'en était pas moins chevalier. Ce que voyant, le roi manda à son neveu qu'il se honnissait d'agir ainsi et qu'il déméritait de son siège à la table ronde.
« Si l'on est honni pour être allé en charrette, c'est donc que Lancelot l'est !»
fit simplement répondre Monseigneur Gauvin. Et le roi fut très étonné. Quand il eut mangé, le chevalier remercia Monseigneur Gauvin et sortit sans que personne prît garde à lui. Il alla s'armer dans un petit bois voisin où un écuyer l'attendait. Après quoi, il fut emparé dans l'étable du roi d'un très bon cheval, tout sellé. Et ainsi monté, il revint dans la cour, devant la porte de la salle qui était ouverte, et cria « Roi Artus, si quelqu'un trouve mauvais que messire Gauvin ait mangé avec moi, qu'il se présente, je l'attends. Et sachez que vous êtes le plus failli roi et le plus récréant qu'on ait jamais vu. J'emmène ce cheval, je vous en prendrai d'autres, et nul de vos chevaliers ne sera capable de les regagner. » Puis, s'adressant à Monseigneur Gauvin, « Sire, grand merci d'avoir daigné manger avec moi. »«
Allez, adieu, » répliqua celui-ci, de moi vous n'avez à vous garder. »
D'abord le roi était demeuré tout ébahi. Puis il entra dans une telle colère qu'il en pensa perdre le sens, criant qu'il n'avait jamais connu une pareille honte que de voir un larron lui enlever un de ses chevaux sous ses yeux. Déjà Sagremor le Désiré avait couru s'armer en son logis et galopait à la poursuite du chevalier, bientôt suivi par Lucan le Boutellier, puis par Bédoyer le Connétable, par Giflet fils de Dau et par Queux le Sénéchal. Les compagnons filèrent à toute allure le long de la rivière, derrière celui qu'ils pourchassaient. Au guet de la forêt, une dizaine de fers vêtus semblaient attendre l'étranger. Il s'arrêta devant le guet, et, voyant arriver Sagremor, il le chargea si rudement qu'au premier choc il lui fit vider les arçons. Alors il prit le destrier par la bride et le mena de l'autre côté de l'eau, où il le remit à ses gens.
« Sire, cria-t-il à Sagremor, dites au roi que j'ai maintenant un destrier de plus. »«
Comment ? Vous ne voulez pas continuer ?»«
Nenni, et si j'en faisais davantage, je ne pense pas que vous y gagneriez rien, car je suis à cheval et vous à pied. »
Sagremor s'en retourna, tout honteux, et Lucan le Boutellier s'élança. Mais il fut abattu de même, et l'étranger s'empara de son destrier en le priant de dire au roi qu'il avait, grâce à lui, un nouveau cheval. Et sachez qu'il en fut pareillement de Bédoyer le Connétable, de Giflet fils de Dau et de Queux le Sénéchal. Sauf que celui-ci culbuta au beau milieu du guet, où il but un bon coup d'eau. Tous revinrent à pied vers le roi, qui, humilié, s'en prit du tout à son neveu. Mais messire Gauvin se contenta de lui répondre « Bel oncle, il y en a ainsi que plus de honnie. » Là-dessus, le nain reparut avec sa charrette. Mais elle portait cette fois une demoiselle voilée, qui parla comme il suit. « Roi Artus, on m'avait dit que tous les déconseillés trouvaient ici bonne aide. Mais il paraît que ce n'est pas vrai. Un chevalier s'en est retourné sans que personne d'Étienne eût consenti à monter en charrette pour lui. Vous en avez plus de honte que d'honneur, puisqu'il emmène 6 chevaux malgré vous. Pour moi, je ne sais s'il se verra quelqu'un qui me délivre en prenant ma place. »
« En nom Dieu ! » s'écria messire Gauvin. « Je le ferai par amour du bon chevalier, qui un jour fut promené en pareil équipage. »
Et il sauta dans la voiture, tandis que la demoiselle montait sur un beau palfroi en blanc, blanc comme la fleur au printemps, qu'un écuyer lui amenait. «
Toi et les tiens, continua-t-elle en s'adressant au roi, vous n'auriez pas dû manquer au chevalier charreté, car il n'était là que pour l'amour de Lancelot, qui un jour s'y laissa voir aussi, afin de reconquérir la reine Guenièvre. Et maintenant, sais-tu quel il est, celui qui a abattu tes compagnons ? Un Jouvenceau, chevalier depuis Pâques tout au plus. Il a nom Bor l'Exilé, et il est cousin de Lancelot et frère de Lionel, qui s'est mis en quête de Lancelot, et follement, car il ne le trouvera point. » Là-dessus elle s'éloigna, et l'on vit arriver Bor, suivi de ses gens, menant les chevaux qu'il avait gagnés. Il ôta son aume et dit au roi « Sire, voici vos destriers, que je vous rends. » Aussitôt la reine se leva devant lui, et il n'est fait qu'elle ne lui fit pour l'amour de Lancelot. Et le roi voulut accueillir Bor parmi les chevaliers de la table ronde, quoiqu'il protestât qu'il n'en était pas digne. « Beau sire, lui demanda la reine, quelle est donc la demoiselle qui était sur la charrette ?»«
C'est la dame du lac, qui a élevé Lancelot, Lionel et moi. »
Ah ! En entendant cela, la reine fut si dolente de n'avoir pas reconnu celle qu'elle avait tant appelée, que nulle femme jamais ne le fut davantage. Elle fit amener son palfroi et courut à la recherche de la charrette, qu'elle rejoignit dans la ville, où le nain promenait encore monseigneur Gauvin. Aussitôt elle mit pied à terre et s'élança dans la voiture. Le roi, qui l'avait suivi, fit de même, et tous les chevaliers qui étaient avec eux, l'un après l'autre.
et désormais personne ne fut plus honni pour être allé en charrette. Les criminels furent menés sur un vieux cheval à queue et oreilles coupées. Cependant, le roi songea que s'il donnait un tournoi, il contenterait ensemble les anciens captifs de Gore, qui depuis bien longtemps n'avaient point vu de prouesse d'armes, et les demoiselles à marier. Aussi fit-il crier dans toute sa terre qu'à 20 jours de là, une assemblée se ferait à Paumeglay. La reine s'en réjouit, car son cœur lui disait qu'elle reverrait là son amie. Mais le comte laisse ici de parler du roi Artus et de sa cour, et devise de ce qui advint à Lancelot quand il eut quitté Gaillon, la cité maîtresse du roi Baudemagu, en compagnie de 40 chevaliers, pour se mettre en quête de Monseigneur Gauvin. Chapitre 18. Lancelot délivré par amour. Comme il approchait du pont sous l'eau, il rencontra un nain, qui, le tirant à part, lui dit que Messire Gauvin le priait de venir le joindre sans délai. Il partit aussitôt, après avoir commandé à ses gens de l'attendre, et le nain le mena à un petit château très fort, entouré de fossés. Et là, il fut introduit dans une salle de plein pied, où il n'avait pas fait 3 pas qu'il chut dans une fosse profonde de plus de 2 toises, mais sans se faire aucun mal, parce que le fond en était jonché d'herbes fraîches. Il ne douta guère que cette traîtrise ne fût l'œuvre de Méléagant. Mais que faire? Il se laissa donc désarmer, et il fut mis en prison dans une tour, d'ailleurs très passablement traité par le sénéchal de Gore, son gardien, qui lui laissait toute liberté, hors celle de sortir, si bien qu'il ne manqua pas d'apprendre la nouvelle du tournoi que le roi Artus devait donner à Paumeglay. Or, le sénéchal avait une femme belle et courtoise. Chaque jour, on faisait sortir le prisonnier de sa tour, et comme le sénéchal n'était pas souvent à la maison, Lancelot mangeait en compagnie de cette femme, qui ne tarda pas à s'éprendre d'amour pour lui. Quand le jour fixé pour le tournoi approcha, elle remarqua qu'il perdait son appétit et qu'il était de plus en plus pensif, ce qui, au reste, lui seyait fort bien et empirait encore la dame. En vain, elle lui demandait ce qu'il avait. Il ne voulait rien dire. Enfin, il avoua qu'il mourait d'envie d'aller au tournoi. « Lancelot, dit la dame, ne devriez-vous pas avoir beaucoup de reconnaissance à qui ferait tant que vous y fussiez? Si vous m'accordez un don, je vous baillerai des armes et un cheval, et je vous laisserai sortir sur parole. Ah, dame, je vous l'octroie volontiers. Eh bien, savez-vous ce que vous m'avez donné? C'est votre amour.
Dame, répondit-il avec embarras, je vous donnerai d'amour tout ce que j'en peux accorder.
Elle pensa qu'il était un peu intimidé, mais qu'à son retour il ne saurait manquer d'être tout à elle. Aussi, au jour dit, après qu'il eut fait le serment de revenir sans faute à la fin du tournoi, elle l'arma de ses mains et il partit. Chapitre 19. Le tournoi de Paumeglay. Tant de seigneurs étaient venus à Paumeglay, dit le comte, qu'il n'était point de maison où ne pendît l'écu d'un chevalier. Ceux qui n'avaient pas envoyé leurs fourriers à temps n'avaient pu s'héberger dans la ville, et tout alentour des murailles s'élevaient leurs tentes et leurs pavillons. Aux fenêtres flottaient les bannières, les murs étaient tout tendus d'étoffe, et les rues si bien jonchées de mantes, de glaïeuls et de joncs qu'on se fût cru dans la salle du plus riche palais. Elles étaient pleines de destriers, de chevaliers, de valets qui portaient des présents aux dames et aux pucelles, de damoiseaux faisant gorge aux faucons. Mais c'est le marché qu'il fallait voir, tant il était bien fourni de volailles, de poissons, de cire et d'épices. Les changeurs criaient « C'est vrai !» ou « C'est mensonge !» Et ils n'avaient pas seulement de la monnaie. Jamais on ne vit autant de pierreries étalées, ni tant d'images et de vaisselles d'or et d'argent. Cependant, les cloches, les cors, les bucines sonnaient.
les couteaux cliquetaient dans les cuisines qui rougeoyaient. À tous les carrefours paradaient les acrobates, les jongleurs, les joueurs de vielle et de harpe, les montreurs de lions, d'ours, de léopards et de sangliers. L'histoire dit que jamais il n'y eut une plus belle fête. Lancelot se logea comme il put, dans une maison si pauvre que nul n'en avait voulu. Il suspendit son écu à la porte, et comme il était fort las, il s'étendit, tout désarmé, sur un méchant lit couvert d'un gros drap de chanvre et d'une mauvaise couette. Un garnement, un héros d'armes qui avait mis en gage à la taverne sa cotte et ses chaussures, vint à passer, et voulant savoir à qui appartenait l'écu accroché au dehors, il poussa Luis tout doucement et approcha sans bruit, sur ses pieds nus, du chevalier endormi. Or, dès qu'il le vit, il reconnut Lancelot et se signa. Mais celui-ci s'éveilla sur ses entrefaites. « Si tu dis mon nom à quiconque, s'écria-t-il, irrité, je te tords le cou.
Sire, je ne ferai rien dont vous puissiez me savoir mauvais gré, répondit l'autre.
Mais, à peine hors de la maison, voilà le drôle qui va criant de toute sa voix. Horace est venu qui l'honnera. Horace est venu qui l'honnera.
Les bonnes gens ébahis, sur le pas des portes, se demandaient ce qu'il disait et quel était ce chevalier qui était venu et qui l'emporterait sur tous, car on ne connaissait pas encore ce cri-là. C'est depuis ce temps qu'on l'entend dans les tournois. Presque toute la nuit, il y eut carole dans les maisons qui étaient si bien illuminées qu'on eût pensé qu'elles flambaient. Et pourtant, dès l'aube, les héros commencèrent de mener grand bruit par les rues et de crier « Horace, su, chevalier, il est jour !» Lancelot fut entendre la messe et déjeuna de pain et de vin. Déjà les cortèges défilaient bellement par la cité, et sitôt arrivés sur le terrain, il fallait voir les valets ficher les lances en terre, vider les coffres sur les manteaux, étaler les haubères et les chausses, préparer les sangles, les sursangles, les lacets à aumes et le fil à coudre, les manches. Il y avait bien là plus de 200 chevaliers, et les lances étaient si nombreuses qu'on pouvait se croire dans un bois. Les demoiselles de la ville étaient aux fenêtres ou sur les murs, mais pour la reine, on avait dressé un échafaud, bel et long à merveille. Elle s'y assit avec ses dames et ses pucelles. Monseigneur Gauvin, qui ne combattait pas, était auprès d'elle, causant avec d'autres barons qui ne pouvaient porter les armes, soit qu'ils fussent prisonniers sur parole ou croisés.
« Voyez-vous cet écu où sont un dragon et un aigle ?»«
Par ma foi, c'est ignorer le désiré, qui est bien amoureux et bien plaisant. »
Celui qui porte les faisans peints bec à bec, c'est Coquillon de Mentirec.
Sémiramis et son ami ont les mêmes armes d'or aux lions passants et les mêmes chevaux pommelés.
L'écu où l'on voit un cerf qui semble sortir d'une porte, c'est celui du roi Idier.
Sire, cet écu fut fait à Limoges. Cet autre vient de Toulouse. Ceci de Lyon sur le Rhône. Il n'en est point de meilleur au monde.
Voyez ces deux hirondelles qui paraissent voler. Elles recevront 1000 coups des aciers poitevins. C'est un écu ouvré à Londres.
À vos hommes !
Crièrent enfin les héros. Et les joutes commencèrent. À ce moment, Lancelot arrivait, suivi d'un seul écuyer portant une liasse de lances. Il s'arrêta un instant sous la loge des dames et regarda la reine bien doucement. Mais il avait son home, de manière qu'elle ne le reconnut pas. Alors il se mit sur les rangs, et quand le héros qui lui avait parlé la veille aperçut son écu de sinople à 3 bandes d'argent, il recommença de crier à tue-tête
« Voici qui l'honnera ! Voici qui l'honnera !»
Elioa, frère du roi de Nonterberland, dont le destrier était plus allant que Serre de Lande, avait mieux fait que nul autre jusque-là. Lancelot fondit sur lui comme la foudre descend du ciel, et il le renversa avec son cheval et lui brisa le bras en 2 endroits. Puis,
il culbuta du même élan Cador d'outre la marche, qui portait au bras la manche brodée de sa dame. Ce que voyant, ceux du parti opposé voulurent tous jouter avec lui, et il continua de la sorte, brisant les lances, abattant tout, et donnant aux héros, ou à qui en voulait, les chevaux qu'il gagnait. Car il n'était pas de ceux qui font du cuir d'autrui large courroie. Tant enfin que chacun s'ébahissait de le voir, et que les demoiselles se promettaient de ne pas refuser un champion si preux, si par hasard il les voulait aimer. Il advint une fois qu'il frappa un chevalier en pleine gorge, de façon que la terre fut en peu de temps rouge de sang.
« il est mort » criait-on.
Ce qu'entendant, Lancelot laissa choir son arme et annonça qu'il allait quitter le champ. Mais, quand il eut appris par son écuyer que le navré était le sénéchal du roi Claudas de la Déserte,
« Puisqu'il appartient à Claudas, peu me chaud de sa mort, » dit-il.
« C'est le chevalier Jésus qui me venge de mes ennemis. » Et là-dessus, tirant son épée, il commence la mêlée, frappe à dextre, à sénestre, arrache les écus, fait sauter les aumes, et boute et enfonce et frappe et cogne des membres et du corps. Or, à voir tant de prouesses, messire Gauvin eut soupçon que c'était là Lancelot, et fut le dire à la reine. Mais il y avait longtemps qu'elle l'avait deviné, et pour tromper tout le monde, elle appela l'une de ses pucelles.
« Allez !» lui dit-elle tout bas. « Au chevalier qui jusqu'à présent a si bien fait, et commandez-lui de par moi qu'il fasse désormais au pis qu'il pourra. »«
Oui, dame. » Et montée sur sa mule, la pucelle traversa le champ et prit si bien son temps qu'elle fit le message à Lancelot au moment qu'il prenait une nouvelle lance de son écuyer. Aussitôt, il s'adresse à un chevalier et manque exprès son coup. Puis il feint d'avoir peur, s'accroche au cou de son cheval, s'enfuit devant tous ceux qui l'approchent, de manière qu'à la fin, valets, sergents, écuyers se mirent de toutes parts à huer le couard. « Ami, criait-on au héros qui avait prédit qu'il emporterait tout, il a tant au nez, ton champion, qu'à présent son nez est brisé. Où est-il allé? Où s'est-il tapi ?» Toute la nuit, dans leur logis, ceux qui l'avaient vaincu s'étranglèrent de médisance sur lui. Mais tel qui dit du mal d'autrui est souvent pire que celui qu'il blâme, et on le vit bien le lendemain. Pour le faire bref, le comte dit seulement qu'il en fut tout de même que le premier jour du tournoi. Lancelot fit d'abord au mieux, puis au pis, sur l'ordre de sa dame. Pourtant, elle voulut qu'il terminât par des prouesses, et il en accomplit de telles que toutes les demoiselles s'accordèrent à lui décerner le prix. Mais quand on voulut lui remettre le mouton doré, on ne trouva que son écu, qu'il avait laissé avec sa lance et l'armure de son cheval, car il était parti avant la fin du tournoi pour regagner sa prison, où le sénéchal l'attendait en grande inquiétude. Chapitre 20. Lancelot dans la tour. Lorsque sa femme épousée lui avoua qu'elle avait laissé partir Lancelot, pour un peu il l'eût tué. Il s'empressa d'avertir Méléagant par prudence. Et celui-ci, ce traître que le mauvais feu arde, il jura qu'il saurait enfermer Lancelot en un lieu d'où il ne sortirait point sans congé. En effet, il le fit transporter dans une tour très haute et très forte au milieu d'un grand marais, dans la marche de Galles. On mura les portes et les fenêtres, sauf une petite ouverture au sommet. Par là, on faisait passer chaque jour aux prisonniers un peu d'un dur pain d'orge et de l'eau trouble qu'on lui portait en barque et qu'il tirait lui-même par une corde. Cela fait, Méléagant se rendit à la cour du roi Artus, qui était alors à Londres, pour réclamer la bataille contre Lancelot. Et, si son adversaire était défaillant, demandait que la reine le suivît comme elle l'avait juré. « Méléagant, dit le roi, Lancelot n'est point ici, et je ne l'ai pas vu depuis un an avant le temps qu'il délivra la reine. Et vous savez bien ce que vous devez faire. »
« Et quoi ?
attendre séant 40 jours, par ma foi. Et si Lancelot ne se présente pas, ou quelque autre à sa place, vous emmènerez la reine. »
Ainsi ferai-je, répondit Méléagant.
Or, le comte dit, en cette partie, qu'il avait une sœur d'un premier lit, et cette pucelle le haïssait fort, parce qu'il s'était emparé de la terre qu'elle devait hériter de sa mère, après l'avoir si bien calomniée que le roi Baudemagu, leur père, l'avait exilée au bout de son royaume. Et c'était justement dans la marche de Galles. Quand elle sut qu'on avait enfermé un prisonnier dans la tour, elle résolut de s'en enquérir. Sachez que le sergent qui gardait la tour logeait au bord du marais, près du chemin, et que sa femme devait tout à la sœur de Méléagant, qui l'avait élevée et mariée. Celle-ci vint voir sa protégée et coucher chez elle. Puis, la nuit, quand tout fut endormi, elle monta dans la barque avec deux de ses pucelles et vogua jusqu'au pied de la tour, où elle découvrit le paneret par lequel on envoyait les vivres. Et elle entendit une voix qui se plaignait et disait « Ah, fortune ! Comme la roue a mal tourné pour moi ! Les vilains disent bien vrai quand ils assurent qu'on a peine à trouver un ami. Ah, messire Gauvin, si vous étiez en prison comme je suis depuis un an, il n'y aurait tour ni forteresse au monde que je ne conquisse jusqu'à ce que je vous eusse trouvé. Et vous, madame la reine, dont tout bien m'est venu, ce n'est pas tant pour moi que pour vous que je regrette de mourir ici, car je sais bien que vous aurez grand-peine quand vous apprendrez ma mort. » Ainsi gémissait le prisonnier, et la demoiselle devina que c'était Lancelot. Elle heurta le paneret, et lui, qui s'en aperçut, il vint à la fenêtre et tendit le cou. « Je suis une amie, dit-elle, triste de votre chagrin, et je me suis mise en aventure de mort pour vous délivrer. » Elle retourna doucement à la maison, d'où elle rapporta un pic et une grosse corde qu'elle lia à celle où pendait le paneret. Lancelot eut au fait de tirer la corde, d'agrandir l'ouverture et de se laisser glisser dans la barque le plus silencieusement qu'il put, et de là, dans le logis du sergent. La demoiselle le fit coucher dans la chambre voisine de la sienne, et le lendemain, au jour, elle l'habilla de l'une de ses robes. Après quoi, elle l'emmena sur un de ses palefrois, au milieu de ses pucelles, à la vue des gardiens qui ne le reconnurent pas. Et sachez bien qu'une fois sorti de la tour, pour tout l'or du monde, Lancelot n'y fut pas rentré. Mais le comte retourne maintenant à Méléagant. Chapitre 21. Mort de Méléagant. À 9 jours de là, finissait le délai des 40 jours. Le félon se présenta tout armé devant le roi Artus et déclara que, puisque Lancelot ne venait pas, il emmènerait la reine au royaume de Gore. « Certes, dit messire Gauvin, si Lancelot était là, vous ne seriez pas si pressé d'avoir cette bataille. Mais vous l'aurez, si vous la désirez si fort que vous en faites semblant, car je combattrai pour l'amour de madame et de lui. » Là-dessus, il alla se faire armer par ses écuyers. Or, au moment qu'il montait sur son destrier d'Espagne, un chevalier entra au château. C'était Lancelot. Ah, quelle joie lui fit messire Gauvin! Sur le champ, il se défit de son écu, de son aume, de son aubert, et son ami s'arma de ses armes. Le roi, cependant, accourait embrasser Lancelot, et la reine après lui, et des compagnons. Et déjà toute peine était oubliée, car le bonheur défait et efface la douleur à l'instant. Mais Lancelot, lui, n'oubliait pas Méléagant, et il se hâta d'aller à lui. « Méléagant, dit-il à son ennemi tout ébahi de le voir, vous avez assez crié et bray pour avoir votre bataille. Mais, grâce à Dieu, je suis hors de la tour où vous m'aviez enfermé par trahison. Il est trop tard pour clore les tables, comme dit le vilain, quand les chevaux n'y sont plus. » Tous deux se rendirent dans un vallon, entre deux bois, tout semé d'herbes fraîches et menues. À l'abri d'un sycomore, planté au temps d'Abel, pour le moins, courait une fontaine vive sur des graviers clairs comme de l'argent.
Le roi s'assit là avec la reine, après avoir posé des gardes, et quand le corps eut donné le signal, les deux champions laissèrent courir leurs chevaux. Au premier choc, la lance de Méléagan vola en éclats, car ce n'était pas sur la mousse qu'il frappait, mais sur des airs durs et secs. Celle de Lancelot perça l'écu et le serra au bras, et le bras au corps, et fit plier le corps sur l'hameçon, et culbuta le cheval en même temps que l'homme. Aussitôt Lancelot mit pied à terre et courut su à Méléagan, l'épée à la main, en se couvrant de son écu. Et tous deux commencèrent de s'assommer à grands coups sur les haumes, de se rompre leurs boucliers, de se tailler leur aubert sur les bras, les épaules et les manches, et ainsi jusqu'à midi. À ce moment, Méléagan parut se lasser. Il était touché en plus de 30 endroits, car Lancelot était beaucoup meilleur escrimeur que lui. Il avait reçu de si forts coups sur le chef que le sang lui coulait du nez et de la bouche, et au point qu'il en avait les épaules couvertes. Bref, il ne faisait plus rien qu'endurer et se défendre. Soudain, comme il avançait d'un pas pour éviter un très lourd horion, Lancelot le heurta si rudement qu'il le fit choir, épuisé, et aussitôt lui sauta dessus et le saisit par son aume. Mais l'écourroie était forte. Il eut beau traîner Méléagan, elles ne rompirent pas. Alors il le frappa du pommeau de son épée à lui faire entrer les mailles de sa coiffe dans la tête, et tant que l'autre se pâma. Puis il coupa les lacs et arracha le aume, mais il attendit que Méléagan fût revenu à lui, et au lieu de lui trancher le cou, il lui demanda s'il s'avouait outré. « Merci, cria le félon, par tous les saints compris au paradis, ayez merci de moi. » Et, tout en disant ces mots, il soulevait bellement le haubert de son vainqueur pour lui bouter son épée par le ventre. Ce que voyant, Lancelot haussa la sienne et d'un seul coup lui fit voler la tête. Comme il essuyait sa lame toute souillée de sang et de cervelle, que le sénéchal courut lui ôter l'écu du col. « Ah, sire, dit-il, vous avez bien montré, ici ou ailleurs, que vous êtes la fleur de la chevalerie terrienne. » Ensuite vint le roi Artus, qui accola Lancelot tout armé comme il était, et voulut délasser lui-même son aume. Puis messire Gauvin arriva, avec la reine plus heureuse que femme ne le fut jamais, et tous les autres barons. Le roi commanda de dresser les tables, et sachez qu'il octroya à Lancelot un honneur qu'il n'avait jamais accordé à nul chevalier, pour haut homme qu'il fût, car il le fit asseoir tout à côté de lui sur son estrade. Et certes, il était arrivé qu'il y fît siéger quelques chevaliers vainqueurs au tournoi ou à la quintaine, mais non pas si près de sa personne. Telle fut la place de Lancelot ce jour-là, par la prière du roi Artus et le commandement de la reine sa dame, et il en était tout confus. Lorsqu'ils eurent mangé leur content, les chevaliers s'en retournèrent à leur logis. Mais le roi retint Lancelot et le fit asseoir à une fenêtre de la salle, ainsi que la reine, Monseigneur Gauvin et Bors l'exilé. Et là, il lui demanda le récit des aventures qui lui étaient advenues depuis son départ de la cour, et les entendit avec plaisir. Puis il manda ses grands clercs et les fit coucher par écrit. C'est ainsi qu'elles nous ont été conservées au livre de Lancelot du Lac.